Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Blais, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, philosophe et historien des sciences. Vous êtes membre de l'Union rationaliste dont vous avez été même à un moment secrétaire général adjoint. Et vous, Christian Laval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Nanterre, spécialiste du libéralisme et plus précisément de l'utilitarisme benthamien. Si j'ai le plaisir de vous recevoir ce matin, c'est pour poursuivre d'une certaine façon la réflexion entamée à l'antenne ici même en juin dernier sur la réforme de l'éducation et aborder une question spécifique qui me préoccupe depuis plusieurs années, l'emprise de plus en plus importante des cognitivistes et des neurosciences sur l'éducation. Vous avez tous les deux publié à la librairie Chan un court ouvrage, écrit donc à quatre mains, que je recommande chaleureusement à toutes celles et ceux qui veulent comprendre non seulement les présupposés de la réforme Blanquer, mais aussi ce qui arrive à l'école depuis une vingtaine d'années, livre dans lequel vous faites l'un et l'autre œuvre de philosophe critique en prenant le recul nécessaire pour comprendre ce qui nous arrive. Ce livre s'intitule « Neuropédagogie, le cerveau au centre de l'école ». Alors, ma première question porte sur le titre. Vous produisez une analyse de l'emprise des neurosciences et de l'influence des cognitivistes sur le ministère de l'Éducation nationale depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer et sur les conséquences de cette emprise dans l'éducation. Vous avez choisi d'intituler votre ouvrage « Neuropédagogie » et non pas « Neuroéducation ». Pourriez-vous expliciter ce concept pour les auditeurs de France Culture ?
En fait, merci de nous inviter. Nous aussi, nous sommes très préoccupés, Michel Blais et moi-même, par une transformation qui est un peu passée inaperçue. On s'est beaucoup inquiété, à juste raison, de l'autoritarisme du nouveau ministre, d'une réforme qui nous paraît très régressive à beaucoup d'égards. Mais il y a quelque chose de peut-être plus fondamental dans ce qui est en train de se passer au ministère de l'Éducation nationale. C'est le fait que un groupe d'experts soutenu très très fortement par le ministre, un groupe d'experts de neuroscientifiques prétend détenir une vérité sur la pédagogie, sur les méthodes employées, sur le sens même finalement du geste pédagogique, et je dirais même, et c'est peut-être surprenant, que cette tentative de pouvoir, de prise de pouvoir, vise également à définir ou à redéfinir non seulement les pratiques, mais les contenus scolaires. Donc nous appelons neuropédagogie un ensemble de discours, un ensemble de prescriptions, de recommandations qui participent d'une stratégie de pouvoir à l'intérieur même du champ éducatif. Et ceci au détriment de tous ceux qui, a priori, possédait ou possède encore, bien sûr, une expertise pratique, c'est-à-dire tous les enseignants, mais aussi tout le personnel éducatif. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre de ce que Foucault aurait appelé un savoir-pouvoir, en quelque sorte. Et je crois que c'est très important pour nous, il est très important pour nous de travailler cette question pour informer avant tout, tous ceux qui ont affaire à l'école, à l'éducation. Je pense évidemment aux enseignants, mais également aux parents d'élèves qui ne doivent pas se laisser leurrer, finalement, par les prétentions scientistes de ce groupe d'experts.
Alors, cet ouvrage se compose de deux parties. Une première rédigée par vous, Christian Laval, intitulée « Le virage neuronal de l'éducation », dans laquelle vous expliquez très démonstrativement quand et comment les neurosciences se sont développées aux États-Unis, puis avec un petit temps de retard aux Pays-Bas et au Japon, et comment elles se sont introduites en France dans les années 2000, et comment encore, sous le ministère de Jean-Michel Blanquer, elles connaissent un retentissement très important. Au-delà de ce mouvement historique que vous tentez de mettre au jour, c'est la véritable ambition de cette, entre guillemets, idéologie scientifique qui est, vous le pensez, de faire advenir une nouvelle conception de l'homme et de l'humanité, un projet anthropologique, dites-vous. Pouvez-vous éclairer à la fois ce mouvement historique que le livre met très bien en valeur et cette thèse?
Oui. Alors, je crois qu'il est important de rendre l'histoire, de retracer l'histoire de ce qui apparaît comme un mouvement mondial. La neuropédagogie, d'abord, il faut bien le dire, participe elle-même d'un mouvement plus large qui est le fait que le cerveau, si je puis dire, est devenu un enjeu politique et économique mondial dès les années 90. Ceci est assez peu connu, mais doit être rappelé. Aux États-Unis, d'abord, avec Bush père, on a eu affaire à une première étape qui était de dire que dans la compétition mondiale, tout ce qui relevait finalement de la cognition du cerveau, puisqu'il y avait ce lien qui était fait immédiatement, était un enjeu économique dans la compétition entre les différentes économies, entre les différents pays. Et puis les choses se sont accentuées parce qu'on a considéré que l'école, l'éducation en général, était la matrice de la performance économique, puisque sous l'effet des idéologies néolibérales et des politiques de néolibérales, on a considéré que l'école était le lieu où l'on devait fabriquer un capital humain. Et donc, ces choses se sont liées, c'est-à-dire d'un côté des avancées sur le terrain de l'étude du cerveau, avec en particulier bien le seuil ou le saut qui a été réalisé avec l'imagerie à résonance magnétique, et puis d'autre part, donc cette idée que l'école était avant tout une affaire de performance. Comment les choses se sont-elles nouées? Eh bien, elles se sont nouées par le fait que les universités, les départements de sciences de l'éducation, les départements de psychologie cognitive, etc., ont articulé leurs travaux, leurs efforts, et ont institutionnalisé un nouveau champ qu'on peut dire à la fois scientifique et politique. Ce champ, c'est précisément celui de la neuroéducation. Mais j'ajoute quelque chose qui me paraît important, c'est que ce cerveau qui est tant à la mode se retrouve non seulement dans le champ éducatif, mais partout. Il y a aujourd'hui un neuromarketing, une neuroéconomie, une neurofinance, un neurodroit. On a donc affaire à quelque chose d'un champ en expansion continue. Pourquoi? Parce que on a considéré à un moment donné que le cerveau était le fondement de toutes les activités. Le cerveau, son organe biologique.
Organe. Pas l'esprit.
Pas l'esprit.
Pas le psychisme, le cerveau.
Absolument plus le psychisme, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là. C'est le cerveau, en tant qu'organe biologique, qui est au fondement de toutes les activités humaines et de toutes les formes, finalement, de pensée, de toutes les formes de pratique. Et donc, on a affaire à un véritable impérialisme cérébral que l'on voit partout, parce que le cerveau est célébré dans les médias, dans l'édition, avec des succès considérables. Donc, ça participe de ce que certains auteurs américains appellent de la neuroculture. Voilà. Nous parlons dans le livre de neuropolitique. La neuropédagogie est une partie, un segment.
Une branche
de la neuropolitique.
Très bien. Même présupposé anthropologique dans la deuxième partie de l'ouvrage rédigé par vous, Michel Blais, l'invention du cerveau computationnel, dans laquelle, avec les armes d'historiens des sciences que nous vous connaissons, vous retravaillez les modèles épistémiques, celui de l'idée de nature comme celui de raison du monde. Pourriez-vous éclairer la nouvelle idée de nature et de raison computationnelle qui appartiendrait à cette idéologie neuroscientifique?
Je vais essayer. Pour prendre la suite de ce que vient de dire Christian a dit que le cerveau était au centre, absolument au centre, le cerveau biologique est au centre. Mais de quel cerveau parlons-nous? C'est simple, on dit le cerveau. Mais le cerveau n'a pas toujours été conçu de la même manière. Le cerveau n'est pas indépendant de la conception du monde que l'on se fait. Et je pense qu'il est très important, dans tous les cas, de replacer les conceptions de la nature, les conceptions que l'on se fait du monde, dans une histoire. Car nier l'histoire, c'est aller dans des mondes, disons, assez autoritaires. Et nous y sommes actuellement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais essayer d'être très simple. Lorsque l'on est au XVIIe, XVIIIe siècle, la conception du monde est fondamentalement mécaniste. Mais quand on dit que la conception du monde est mécaniste, cela veut dire que nous sommes, nous aussi, des machines. Et d'ailleurs, la maîtrise produit un livre qui s'appelle « L'homme-machine au XVIIIe siècle ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que le cerveau ? Le cerveau, c'est un ensemble de petits engrenages. Et on pense le cerveau à travers ces engrenages. Et cet homme-machine va devenir quelque chose, un être très important, puisqu'à la fin du XIXe siècle, dans le développement de l'industrie, c'est vraiment de l'homme-machine dont on a besoin, de cet homme que l'on va mettre à la chaîne, qui se fonctionnera comme une machine et que l'on pensera comme une machine. Alors ça, c'est une première étape. Ce qui se passe avec nous aujourd'hui, c'est que cet homme-machine a été remplacé, cette conception de la nature-machine dans laquelle nous sommes toujours, a été complétée par une autre conception, qui est celle de la nécessité du computationnel, c'est-à-dire du calcul. La raison en est en fait assez simple, si l'on veut. À la fin du XIXe siècle, les échanges économiques sont considérables et s'accroissent considérablement. Il faut classer, il faut référencer les hommes, et pour cela, on va créer des machines. Alors c'est toute une technique qui se développe suivant deux voies, soit des machines militaires, soit des machines pour calculer, de plus en plus puissantes, puisque les échanges augmentent. Alors, il y avait une autre solution. Et c'est en ce sens que la technique n'est pas neutre. On pouvait très bien concevoir un autre mode d'organisation sociale, c'est-à-dire un problème politique. On a choisi d'amplifier le technique. C'est un choix politique. Il n'est pas neutre. On pouvait faire des communautés plus réduites, restreindre des échanges, etc., et vivre autrement. Non. On a préféré augmenter ça. Ça va dans le champ absolument du développement du néolibéralisme. Les deux s'organisent. Et alors, cette affaire de machine, de calcul, de fiche, c'est très intéressant de voir comment ça se développe dès les années 40, puis après la guerre de 40, et les gros ordinateurs arrivent. Et à ce moment-là, on peut considérer que la vision de l'homme est une vision que l'on peut dire computationnelle, c'est-à-dire que le cerveau est immédiatement pensé comme un ordinateur. Or, rien n'impose de penser le cerveau comme un ordinateur, puisqu'on l'avait pensé avant comme un ensemble de petites machines. Maintenant, c'est un ordinateur, il est donc computationnel. C'est donc un cerveau computationnel. À partir de ce moment-là, eh bien, on en tire les conséquences qu'il faut et qui s'imposent, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le cerveau dont va parler et dont parle Stanislas de Haine, par exemple, ce n'est pas une vérité. C'est une idée et une conception historique du cerveau qu'il se constitue.
Alors, il me semble que derrière cet engouement pour les neurosciences, il y a évidemment des présupposés scientistes, vous en avez parlé. Il y aurait aussi quelque chose permettant d'éclipser les modèles explicatifs traditionnels, les stades de développement de l'enfant, comme ceux de la psychologie de Piaget, les explications par les déterminismes sociaux, culturels, psychologiques ou psychanalytiques, mais il y a aussi de forts intérêts économiques. Et sur cette question, votre ouvrage est plutôt discret. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ?
Oui, enfin Michel pourra parler des aspects plus institutionnels ou dans le domaine de la recherche, puisque c'est quelque chose qu'il connaît très bien. De façon générale, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, les enjeux économiques sont considérables dès le départ, puisque on suppose que tout investissement dans la recherche sur le cerveau est un investissement économique stratégique, un investissement qui doit augmenter la performance de l'homme. Là, je reprends ce que disait Michel tout à l'heure. C'est que concevoir le cerveau comme un ordinateur, c'est aussi vouloir améliorer l'homme. On est dans la problématique de l'homme amélioré, si vous voulez. Et donc, c'est à partir de cette requalification, si l'on peut dire ainsi, de la main-d'œuvre en général, que l'on pense pouvoir gagner la bataille économique. Donc, d'où le fait que les Américains, d'abord, et je pense par exemple au grand plan d'Obama de 2013, suivi de très près par le programme européen.
Le RC.
Voilà, on mis des sommes absolument considérables sur la table pour accélérer les recherches dans ce domaine-là. Donc les intérêts économiques sont absolument primordiaux. D'où le fait que l'argent ne manque pas dans ce domaine-là. Si on parle d'intérêts économiques, je voudrais aussi mentionner que les médias, les magazines, les grandes machines éditoriales sont aussi impliquées, parce que c'est un phénomène aussi de mode. Il y a la diffusion idéologique est aussi une affaire économique.
Mais que je laisse Michel. Oui, je voudrais rajouter juste une chose dans la même perspective. Le cerveau consiste à rapporter toutes les questions de chacun à son propre cerveau. C'est-à-dire qu'on élimine le contenu environnemental et social.
Les déterminismes.
Et tout ce qui est social est éliminé. L'individu, l'enfant, dans le cas qui nous concerne, est responsable de son cerveau. En conséquence, et je rejoins le plan économique, si ça ne va pas, c'est pas qu'il y a eu des problèmes socio-économiques compliqués autour de lui, c'est que son cerveau fonctionne mal.
C'est qu'il est inapte.
Et à ce moment-là, comme on le voit déjà aux États-Unis, eh bien on lui donnera les médicaments pour se soigner.
Oui, je me rappelle de l'émission que nous avions faite sur les enfants agités.
Voilà.
Et le Rivotril.
Et ben voilà. Et bien ils sont. Et maintenant ça se généralise. On va être avec des gens hors de l'histoire, hors de la sociologie.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Michel Blais et Christian Laval, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions.
Merci à vous.
Je rappelle le dernier numéro de Raison Présente dans lequel Jean-Michel Beignet réfléchit sur l'éducation confiée aux neurosciences en critiquant cette confiance. Je rappelle aussi que dans le dernier numéro des Cahiers rationalistes, Michel Henry fait une recension de cet ouvrage Neuropédagogie. Guy Bruit le fait aussi dans Raison Présente, et je rappelle que vous pouvez trouver cet ouvrage aux éditions Chan, Neuropédagogie, le cerveau au centre de l'école. Je remercie Stéphane Desmonts et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.